Bonsoir, voilà. Bien, bonsoir. Donc je vous accueille, je suis heureux de vous accueillir pour cette table ronde Oracle d'Apocalypse qui est une table ronde organisée en partenariat avec nos amis du colloque Atlantis, colloque international qui actuellement a lieu dans les murs de la Cité des Congrès et donc qui est partenaire du Festival des Utopiales et colloque qui donc se situe dans le Club de l'Atlantique encore pendant les deux jours qui viennent. Voilà, vous pouvez vous rendre sur leur site, donc c'est Atlantis avec un Y, hein, vous rendre sur leur site pour en savoir plus sur le programme et je suppose qu'il doit être possible d'identifier des éléments là-dessus. Le Atlantis est un programme de recherche interdisciplinaire et international financé par la région des Pays de Loire, agréé par la Maison des sciences de l'homme André Guépin et porté par l'Université de Nantes, en particulier par le Centre François Viette, centre spécialisé en épistémologie, en histoire des sciences et des techniques. Alors, et donc, nos deux intervenantes de ce soir sont deux spécialistes de questions que je vais exposer tout à l'heure et qui participent donc à un colloque qui porte sur les imaginaires de fin du monde, hein, de manière générale. Alors, donc, mais Apocalypse, comme vous allez pouvoir le voir, ne s'entend pas nécessairement ce soir comme fin du monde dans un sens négatif. Alors, une petite amorce de mon cru avant de présenter nos intervenantes. Je pense qu'on peut dire que la fin du monde est à la mode, que ce soit dans la littérature, au cinéma, dans les séries télévisées, les jeux vidéo. On a un imaginaire apocalyptique qui ne cesse de se déployer dans tous les sens, sous forme de dystopie, de catastrophe climatique, malheureusement c'est peut-être moins fictionnel que réel, d'invasion de zombies, là pour l'instant nous ne sommes pas tout à fait dans la réalité, ou de fléaux bactériologiques. Cet imaginaire peut prendre des formes très inattendues. Pour ceux qui auraient vu récemment le blockbuster qui vient de sortir de Marvel, Thor Ragnarok, hein, Ragnarok, le Ragnarok, c'est la fin du monde. Bon, ça devient un festival pop-rock en hommage à Jack Kirby, qui est essentiellement humoristique. Bon, donc il y a vraiment une déconstruction possible aussi de cet imaginaire par l'imaginaire populaire. Mais cet imaginaire populaire qui associe à l'idée de la tension dramatique que représente l'idée d'un achèvement de nos civilisations, de la vie telle que nous la connaissons, cet imaginaire-là, qui est maintenant sécularisé, puise ses racines dans un puissant moment de basculement idéologique et philosophique, ce que François Hartog a désigné comme l'entrée dans l'ordre chrétien du temps, qui a construit à grande échelle un horizon eschatologique. Eschatologique, c'est-à-dire la promesse que le temps, loin d'être immuable et infini, ce qui est une conception qui est finalement la conception dans laquelle on vit un peu au jour le jour en général, c'est l'impression que de toute façon nous ne mourrons jamais, mais bon, que cette perspective eschatologique remplace l'idée d'un temps immuable et infini par la promesse d'une fin du monde qui, dans une logique religieuse, mais je ne m'avancerai pas trop hors de mes zones de compétences, dans une logique religieuse, cette fin du monde n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Au contraire, c'est une fin morale. C'est un moment où le jugement s'exerce, un jugement de la fin des temps, mais qui correspond à un moment finalement décisif et quasiment idéal dans certains cas. C'est pas forcément. On peut en débattre évidemment. Et alors, l'aspiration à la rupture radicale par le grand jugement de la fin des temps a modelé jusqu'à nos jours la conception du temps en Occident et au-delà. Je ne m'avancerai pas là non plus sur les questions de culture, de civilisation à cet égard. Alors, cette table ronde, me semble-t-il, se fixe pour objectif d'examiner un certain nombre de racines de l'imaginaire apocalyptique pour nous permettre d'en mieux saisir les implications contemporaines. Alors, nous allons tâcher donc de réfléchir aux caractéristiques idéologiques, esthétiques et politiques du discours eschatologique, avec donc nos intervenantes qui sont ce soir avec nous. Donc, à ma gauche immédiatement, Christine Dumas-Rungoat, de l'Université de Caen, Normandie, qui est maître de conférences en langue et littérature grecque et membre du Centre de recherche archéologique et historique antique et médiévale, Centre Michel de Bois. Elle est également secrétaire de rédaction et membre du comité de lecture de la revue Kentron. Elle a soutenu une thèse de doctorat sur les fléaux et la fin du monde dans la pensée grecque ancienne, qui a été reprise, comme on le voit défiler, sous la forme d'un essai « La fin du monde, enquête sur l'origine du mythe ». Elle est diplômée de langue acadienne de l'ELCOA et elle se consacre à l'étude du sumérien, en co-animant notamment l'atelier Nisaba au Centre d'études théologiques de Caen. Ses recherches explorent les parallèles entre les mythes grecs et mésopotamiens, comment les Grecs ont adapté des éléments proches orientaux à leur propre vision du monde, comment ils s'en sont démarqués ou ont parfois produit des synthèses entre éléments d'origine différentes. Comme vous le voyez, nous puisons aux racines d'un imaginaire effectivement qui enfin, voilà, beaucoup plus ancien que ce que nous avons coutume d'aborder peut-être ici. Anna Petrash, de l'Université de Bucarest, est professeure de philosophie, docteur de l'École pratique des hautes études, et elle s'intéresse à la théologie politique, à la philosophie de la religion et au dialogue interreligieux. Elle a publié notamment un ouvrage sur Gaston Fessard, chrétien de rite dialectique. Alors, nous allons d'abord donc nous intéresser aux caractéristiques de l'imaginaire apocalyptique antique. Alors, donc Anna Petrash, en quoi les énoncés qui concernent le futur présentent-ils des singularités, des particularités notables?
Bon, bonsoir à tout le monde, premièrement. J'aimerais par contre commencer avec quelques idées générales sur la singularité des narrations eschatologiques et on va arriver plus tard à la question de l'Antiquité. Donc, en ce qui concerne les narrations eschatologiques, la première question à se poser, c'est pas s'ils sont vrais ou pas. Ce genre de questions sur la vérité ou sur la fausseté, ça peut très bien marcher sur les questions liées au passé ou au présent. Par contre, en ce qui concerne l'avenir, la vraie question à se poser est différente. Quel genre de comportement peut une narration eschatologique provoquer? Dans la plupart des cas, les prophéties, les narrations, soient-ils apocalyptiques ou les promesses du paradis, soit-il à la fois des images tout à fait religieuses ou des imaginaires sécularisés de la religion, tous ont en commun une mise en cause du présent à partir de l'avenir. C'est l'avenir et l'imaginaire de l'avenir qui met en cause le présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imaginaire n'est pas pour les rêveurs. Tout au contraire, l'imaginaire est une forme du pouvoir. L'imaginaire, c'est une forme de pédagogie, du pédagogie du réel qui peut très bien expliquer les choses et pas simplement les expliquer, mais plus que ça, faire et proposer des comportements différents. Bon, pour vous donner un exemple tout à fait très concret, je prendrai un exemple de l'Antiquité, de la Bible même, de l'Ancien Testament. Il s'agit de l'histoire de Jonas, qui est à Ninive. Jonas est un prophète de l'Ancien Testament envoyé par Dieu pour annoncer la destruction de la cité de Ninive. Encore 40 jours et Ninive sera détruite, crie Jonas dans les rues de la ville, dit la Bible. Mais en écoutant sa voix, les habitants se repentissent de plus petit au roi. Ils croussent tous en Dieu et prend le vêtement de jeûne. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise. En voyant ce changement, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Il est amusant que la Bible explique que Jonas se mit en colère contre Dieu. Car en changeant ses plans de destruction de la cité, Dieu détruit la réputation prophétique de Jonas. Si la prophétie ne s'accomplisse pas, Jonas devient, dans l'imaginaire collectif des habitants de la ville, un faux prophète. Cependant, son travail a réussi. C'est-à-dire que l'enjeu depuis le commencement, ce n'était pas la destruction de la cité, mais c'était de changer le comportement des gens. C'est-à-dire qu'on en annonçait sur le futur, même s'il ne s'avère pas, va avoir des conséquences très réelles dans le présent. On peut faire une comparaison entre l'image de Jonas et l'image de Cassandre. Cassandre est une prophétesse aussi de l'Antiquité, et tout ce qu'elle dit, chaque chose, ça s'accomplit à la lettre. Par contre, elle n'a pas le pouvoir de changer les choses. Rien ne peut être changé, même si ses prédictions sont futurologiquement tout à fait exactes. Par contre, Jonas dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Mais le vrai prophète n'est pas celui qui dit le vrai. Il ne s'agit pas de faire des prédictions exactes. Il s'agit plutôt de faire un peu autre chose, de changer le comportement. Et parce que les narrations sur l'avenir ont le pouvoir de changer le comportement, il s'agit d'un pouvoir très, très dangereux. Surtout si les révélations ne sont pas vraiment religieuses, si tu ne peux pas démontrer qu'ils sont vrais, il s'agit d'un pouvoir tout à fait dangereux de changer le comportement. Par exemple, au moment où on écrit d'Apocalypse, mais peut-être avant, il faudra faire la distinction entre deux genres de narration eschatologique. Le premier, c'est la promesse du paradis. La promesse du paradis, c'est évidemment une bonne nouvelle. Dieu restaurera la justice dans le monde. C'est une bonne nouvelle, premièrement, pour les pauvres, pour le peuple qui souffre l'injustice. C'est-à-dire que l'injustice et le temps présent des choses finira. Par contre, la même idée n'est pas une aussi bonne nouvelle pour ceux qui sont au pouvoir. Leur pouvoir finira. C'est-à-dire qu'ils doivent être très attentifs, ils seront jugés pour leurs actes. Ensuite, il y a la menace de l'Apocalypse. L'Apocalypse est une destruction, mais dans la tradition judéo-chrétienne, elle n'est pas une destruction finale. Elle est simplement une étape intermédiaire. C'est l'étape intermédiaire avant la restauration du royaume de Dieu. Ça, donc, il y a deux genres. Le royaume et deuxièmement l'Apocalypse. Et aussi, ces deux genres ont deux variants sécularisés, c'est-à-dire des variants qui ont perdu le contenu tout à fait religieux, mais dont la structure de la narration est presque la même. Il s'agit de promettre le royaume du Dieu sur terre. Par exemple, la croyance actuelle dans le progrès est une forme de promettre et de projeter ceux qui ont pensé dans l'avenir dans le futur. On ne croit plus à l'éternité du monde, donc il n'y a pas de royaume au-delà, mais il y a un royaume ici qui va s'accomplir sur terre. Et aussi, les apocalypses genre désastre ont leur variant sécularisé. Les variants sécularisés, c'est par exemple le co-désastre. Tout ce qu'on est dans le monde en ce moment-là sera détruit. Et il n'y aura pas de forme de sauver les choses. Tout va être définitivement détruit et l'humanité sera perdue. Donc, on doit faire quelque chose pour intervenir. Et à partir, donc, il y a quatre variantes. À partir de modalités de travailler ces narrations eschatologiques, on peut jouer pour influencer le pouvoir politique. Par exemple, en ce qui concerne les apocalypses de genre écologique et le désastre, si quelqu'un dit que s'approche un genre d'apocalypse de ce type-là, il promet aussi de retarder la fin du monde. Et qui peut retarder la fin du monde sinon un pouvoir politique tout à fait très fort? Donc, il va légitimer un pouvoir politique pour poser des limites au consomme, par exemple, déraisonnable. Bon, peut-être que ma collègue veut ajouter un peu quelque chose.
Oui, mais ça me paraît, c'est très clair, quoi. C'est-à-dire que c'est cette façon de montrer que déjà, le premier exemple de Jonas, de la prophétie qui finalement ne dit pas forcément le vrai, mais qui a une influence sur le comportement des gens et sur la façon d'éviter le désastre finalement. Ça, c'était une chose que je trouve vraiment intéressante. Ce que tu as dit après, sur la façon le progrès, enfin sur cette idée-là qui reprend en fait une vieille idée. Enfin, c'est une nouvelle incarnation, si on veut, de l'idée de paradis sur terre. Et tout ça nous ramène à l'Antiquité et à l'Apocalypse johannique, notamment. Oui, c'est vrai, qui est très, qui a eu une longue, longue histoire ensuite.
Alors justement, si on revient sur des questions spécifiquement de l'Antiquité, de l'imaginaire judéo-chrétien de l'Apocalypse, en quoi y a-t-il éventuellement une spécificité? Comment le caractériser? Et puis à partir de vos exemples, Christine Dumas-Rengouat.
Alors, la première spécificité de l'apocalyptique judéo-chrétienne, c'est que précisément c'est la première. C'est-à-dire que dans la littérature grecque, on trouve donc des écrits des chrétiens qui nous parlent d'Apocalypse, mais eux-mêmes s'inspirent d'écrits de juifs qui ont écrit à Alexandrie et qui eux-mêmes s'inspiraient de l'Ancien Testament. Et donc il faut remonter aux prophètes pour avoir le germe, les prophètes bibliques, pour avoir le germe de cette idée de fin du monde et d'apocalypse. Alors, pour dire le vrai, chez les prophètes autour de l'exil, il n'était pas question de fin du monde. Mais simplement, déjà, ce qui était important, c'est d'avoir imaginé un futur. Un futur dans l'histoire. C'est-à-dire qu'ils ont bien envie de parler de la fin du monde, mais pour eux, la fin du monde, elle est dans l'histoire parce qu'elle est liée à la promesse que Dieu a faite à Abraham, qui est de donner à Israël son indépendance. Mais c'est une indépendance dans l'histoire. On reste dans l'histoire. Avec le livre de Daniel, toujours dans l'Ancien Testament, là, on passe un cap de l'eschatologie. On va vers l'apocalyptique, puisque là, l'idée, c'est de dire qu'on va sortir de l'histoire. À un moment donné, après une succession des empires des Babyloniens, des Perses, etc., et des Romains, qui vont tous chuter les uns après les autres, hein, on va arriver à un autre moment. On va sortir de l'histoire. Quand cela va-t-il se passer? Daniel propose une date plus ou moins floue. Enfin, bon, c'est un peu compliqué de savoir. Mais déjà, on a fait un pas. Et ça se comprend dans l'histoire des Juifs, des Hébreux, dans la mesure où ce qu'ils ont inventé, c'est un Dieu unique, un Dieu transcendant, et un Dieu qui marque son action dans l'histoire en intervenant justement à un moment où il va dire « bien là, c'est la fin de l'histoire ». Donc un Dieu qui va mettre un terme à l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau et très important pour la constitution de cette idée de fin du monde.
Et finalement, ça rompt avec une conception qu'on pourrait dire, avec des représentations mythiques qui sont soit tournées vers une conception étiologique, c'est-à-dire le mythe des causes qui va expliquer d'où peut provenir le monde, mais qui n'explique pas spécialement où il va, donc qui n'est pas du tout tourné vers l'anticipation, pour le coup, et avec des représentations qui peuvent être des représentations de type cyclique, c'est-à-dire l'idée, par exemple, avec le déluge et c'est sur ce qui traverse les cultures, l'idée que périodiquement il peut y avoir des catastrophes, mais que finalement de ces catastrophes ressort la même civilisation ou presque, enfin qu'on repart à chaque fois à zéro.
Alors on repart à zéro et on ne repart pas à zéro. Par exemple, si on prend l'idée justement du déluge, qu'on le trouve dans la Bible, qu'on le trouve avant dans son modèle mésopotamien, dans le mythe de l'Atraasis, c'est-à-dire le mythe du super sage, ou qu'on le trouve en Grèce avec le personnage de Deucalion, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a affaire à un moment de l'histoire où on va sortir de l'ère mythique pour entrer dans l'histoire, dans l'ère historique. Et c'est ce mythe du déluge, de la fin d'un monde et non pas de la fin du monde, qui va opérer la transition. Ces mythes du déluge, la plupart du temps, quand ils sont vraiment insérés dans des traditions, dans des narrations longues et complexes, leur but, c'est de montrer comment on en vient à notre finitude humaine. C'est-à-dire qu'avant, dans les temps antédéluviens, vous connaissez bien ça pour Noé, la vie qui n'en finit pas, d'accord, ils sont tous très vieux, les patriarches, d'accord, ils sont très très vieux, ils vivent 800 ans, etc. Bon, chez les Mésopotamiens, ils vivent plus de dizaines de milliers d'années, d'accord, jusqu'au moment du déluge. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ce déluge va faire qu'on va comprendre désormais pourquoi l'homme a une finitude qui est bien, bien triste, évidemment, au regard de ces grandes durées de vie. Mais ça nous permet de faire comprendre ce qu'est l'homme actuel. Alors, l'homme actuel, je parle au moment de l'écriture de ces textes. Donc, un homme qui ne vit plus que 100 ans au maximum, ça explique la mortalité infantile, ça explique... le fait que, finalement, on a notre finitude d'homme mortel. Donc, quand un déluge se produit, comme vous disiez, la Terre, oui, reprend son allure, l'eau, il y a des crues, etc. Donc, on reprend la vie. Oui, mais l'homme n'est plus le même. Il n'est plus tout à fait le même. Alors que, quand il va s'agir de fin du monde, là, non seulement on va avoir un déluge, mais on va avoir une accumulation de cataclysmes de toutes sortes. Le feu, le feu va tout brûler, les séismes vont tout faire exploser, les volcans, etc. Bon. Mais au bout du compte, on va sortir de cette ère historique, pour en tout cas les chrétiens, et on va aller vers l'ère du jugement et le millénium. Le millénium, ce moment qu'on ne s'est pas bien placé dans le temps, mais qui est une période de 1000 ans de bonheur, donc le paradis dont tu parlais tout à l'heure, enfin une ère paradisiaque. Et cette ère paradisiaque, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle nous fait, bah, vous voyez bien, ère paradisiaque, on est sorti de l'histoire. D'accord ? Donc, moi, je dirais que... on a une conception du temps qui est linéaire avec la Bible, avec une théophanie, c'est-à-dire que chaque élément historique, c'est un élément où on voit la marque de l'intervention divine, et c'est ça qui lui donne son sens, et on va dans un sens qui est le jugement des actions des impies et des pieux à la fin de l'histoire, et une récompense pour les pieux. Et puis... donc on va de l'ère historique, on va sortir de l'ère historique pour aller vers une sorte d'ère mythique, il faut bien le dire, alors qu'avec la conception cyclique dont vous parliez, on a finalement on sort pas de on part d'une idée qui est que avant c'était mieux, on était avec les dieux, on vivait longtemps, la terre produisait d'elle-même tout ce dont on avait besoin, pas besoin de travailler, voilà, c'était formidable. Donc cet âge d'or là, on le quitte à cause des cataclysmes, et on entre dans une ère, donc là, une ère historique qui nous explique notre finitude.
Peut-être on peut aussi souligner qu'il y a une révolution à partir de la tradition judéo-chrétienne, mais qui est la même dans l'islam, c'est la structure du temps change. À partir d'un dieu monothéiste, il y a des religions eschatologiques, c'est-à-dire des religions qui promettent un paradis et un enfer pour punir et pour récompenser. Mais c'est pas que ça. Ça, c'est peut-être secondaire pour notre propos. Ce qui est très intéressant pour notre propos, c'est la flèche du temps. D'après la tradition judéo-chrétienne, le temps part du passé, va vers le présent et s'avance vers le futur. Ça peut être banal pour tout le monde aujourd'hui, mais ce n'est pas vraiment. Et on a même des soucis liés à la science-fiction. C'est-à-dire que, du point de vue philosophique, c'est impossible de concevoir un voyage dans le temps, dans le passé. Tu peux concevoir le voyage dans le temps, mais dans le futur, parce que si tu vas changer, si tu vas voyager dans le passé, il est possible d'avoir des paradoxes et des contradictions, comme l'histoire, quand tu vas dans le passé, tu vas tuer ta grand-mère ou ton grand-père, donc ta naissance sera impossible, donc tu vas créer un paradoxe dans la ligne temporelle. Et cette idée qu'il y a une ligne directe du temps, ça apparaît dans la tradition judéo-chrétienne. Ensuite, cette ligne directe du temps, elle offre quelque chose de plus. Peut-être le secret des narrations eschatologiques, c'est qu'elle offre une compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire une compréhension? C'est à partir de la fin de l'histoire que chaque événement dans l'histoire prend son sens. Il s'agit d'une vision providentielle de l'histoire où chaque crime, chaque meurtre, chaque naissance, chaque révolution, chaque stage de la connaissance même peut-être chaque image artistique a son but et son enjeu à partir de la fin. Et tu peux tout comprendre à partir de la fin. C'est la même chose quand tu lis un livre, c'est simplement après avoir fini que tu comprends le sens du livre. La même chose, il s'agit dans l'histoire. Simplement à partir de la fin de l'histoire, chaque événement prend son sens. Et cette compréhension-là offre quelque chose qui fait que l'avenir peut travailler le présent. Il s'agit d'une sorte de subculture de contestation. À partir d'un imaginaire, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas vraiment du pouvoir, tu changes ce qui est présent et qui a du pouvoir, il y a un pouvoir de transformer le réel. Et ça a beaucoup de conséquences existentielles, parce que nous, on n'est plus notre présent, ni non plus notre passé, on est beaucoup plus notre futur. Dans la tradition chrétienne, qui promet la résurrection des morts, on est les êtres qui vont être ressuscités à la fin du temps. Donc on n'est pas des êtres mortels qui ont une chair qui va périr. Tout au contraire, on est notre futur eschatologique. Et parce qu'on est notre futur eschatologique, il s'agit de faire des changements dans le présent. C'est à partir de la fin qu'on comprend chaque moment du présent. Donc il s'agit d'une révolution ontologique à partir du non-être, d'une image qui n'est pas là et qui change les choses.
Oui, donc c'est effectivement une... Alors, c'est cette idée d'une comment dire, d'un effet en retour, d'une boucle en retour, elle est effectivement conceptuelle dans une perspective théologique. Je rebondis un tout petit peu sur la question de ce que la science-fiction peut ou non représenter par rapport à ça. C'est que justement, c'est un des enjeux du scénario apocalyptique. On voit défiler notamment la question de Terminator qui sécularise l'imagerie d'une espèce de retour des morts, avec pour le coup une puissance qui est Skynet, qui est une puissance pseudo-divine, mais qui va justement, qui est plutôt d'ailleurs satanique dans ce scénario. Bref, la question du voyage dans le temps à ce moment-là est à la fois la source d'une prophétie, éventuellement, et d'une prophétie qui, comme pour Jonas, ne se réalise pas. Puisque finalement, à la fin du premier, en théorie, ce qui a été prophétisé soit ne va pas arriver, soit va arriver. Enfin, disons, il y a un effet, un problème de boucle causale qui intervient. Mais disons que la façon dont la science-fiction s'empare de ces choses-là, c'est en général, c'est souvent dans une logique de lutte contre le futur. Et donc, effectivement, je me demande s'il n'y aurait pas à prolonger une réflexion sur cette idée que dans une narration qui met en cause la question du temps, si l'idée que nous sommes ce que nous allons être, en quelque sorte, ne peut pas informer notre manière de lire, l'idée que les personnages sont ce qu'ils vont être, peut nous aider à interpréter un certain nombre de récits. Après, le lien avec la théologie, je ne le ferai pas directement moi-même. Mais...
Peut-être on peut faire le lien avec la théologie tout de suite en disant que si autrefois les gens croyaient dans des narrations eschatologiques qui étaient du type religieux, aujourd'hui l'être raisonnable, éduqué et sécularisé ne croit pas du tout à la fin prophétisée dans la littérature biblique ou coranique. Mais le même être raisonnable, éduqué et sécularisé essaye de donner un sens à sa vie et essaye d'intégrer sa vie dans une structure et d'une narration eschatologique. Et il reprend cette image eschatologique à partir de la littérature de science-fiction. La littérature de science-fiction peut donner cette structure-là parce qu'elle est la littérature qui a le moindre engagement ontologique. Parce qu'elle a le moindre engagement ontologique, elle peut être la plus libre et la plus contestataire dans le même temps. C'est à partir d'une narration sur le futur, par exemple, on parle beaucoup de l'avènement des sciences, du progrès des sciences, et ce progrès des sciences, il peut apporter ou le bonheur sur Terre, l'utopie, ou l'enfer sur Terre, la dystopie. Et l'utopie et la dystopie, à partir des sciences, disons, dans ce cas-ci, ils ne sont qu'une sécularisation de l'imaginaire paradisiaque ou infernal, c'est-à-dire une sécularisation de nos espoirs d'avenir ou de nos menaces d'avenir dans le même temps. Et peut-être on peut un peu parler aussi de comment la science-fiction peut avoir des éléments utopiques, dystopiques ou post-apocalyptiques. Disons, les éléments utopiques, ils sont au moins au XXe siècle de moins en moins prisés, disons. Il y a des éléments utopiques, mais ils ne sont pas une utopie concrète, comme par exemple dans Thomas Morus ou dans la Cité de Platon. Il s'agit plutôt des petits éléments qui sont introduits dans une narration un peu plus large. Par exemple, en Star Trek, ça c'est le plus, à mon avis, qui se approche de l'utopie. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en Star Trek, il n'y a pas autant de conflits, et s'il y a des conflits, ils vont tout être dépassés par le courage et par la sagesse des personnages. On n'a pas le souci des ressources. Il y a le synthétisateur qui peut offrir le meilleur gâteau du monde ou le thé Earl Grey du Capitaine Picard. Donc, on n'a pas un souci de ressources. Ce souci-là est remplacé. En ce qui concerne les dystopies, au XXe siècle, on a plus des dystopies que des utopies, peut-être. Si on pense au meilleur du monde de Huxley, on présente ça semble être une utopie, mais en effet, il s'agit d'une dystopie. Tu veux ajouter quelque chose ?
Ah non, pas du tout. Je vous laisse développer. mais justement, il y a cette ambiguïté. Et ambiguïté, finalement, alors je me demande si on pourrait développer justement la question de savoir dans quelle mesure ça correspond à une promesse d'un millénium. On parlait du millénium tout à l'heure. Dans quelle mesure cette ère de 800 post-Ford, je ne sais plus combien exactement, quand on est, mais n'est pas une manière d'ambiguiser la logique du millénium, c'est-à-dire justement un moment où on est censé être dans un bonheur parfait, amené par la société capitaliste et l'industrie, et en même temps, justement, cet imaginaire-là est miné de l'intérieur, effectivement, on va vers la dystopie.
Peut-être qu'il faut aussi ajouter en ce qui concerne le millénium, que ça, au niveau théologique, c'est plutôt à la limite de l'hérésie. Dans quel sens je dis ça ? Oui, évidemment, dans la Bible, il y a la promesse d'un règne de 1000 ans, mais ce n'est pas clair si ce règne de 1000 ans, ça serait sur Terre ou ça serait après, dans le royaume de Dieu. Mais quand un personnage, soit-il Thomas Müntzer ou quelqu'un de la contemporanéité, je ne sais pas, Adam Smith, Adam Smith, celui qui est avec les Mormons, le prophète des Mormons, oui. Bon, de toute manière, il promet l'avènement du millénium. Qu'est-ce que ça veut dire ça du point de vue philosophique ? Ça veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de la patience pour attendre que Dieu lui-même commence le millénium. C'est-à-dire qu'ils sont eux qui veulent pas retarder, l'opposé de retarder, faire advenir le plus vite possible ce que Dieu promet. Mais en effet, théologiquement, ça marche pas comme ça.
C'est aussi parce qu'il y a deux lectures de ce millénium qui sont faites depuis l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'on a ou la lecture matérialiste, voilà, ce qu'on veut, c'est des biens matériels, donc c'est 1000 ans tout de suite sur Terre, enfin le plus tôt possible, ou bien alors c'est une lecture plus spirituelle, et c'est l'Église, donc, je dirais, officielle, donc, qui prend cette voie-là et qui propose de dire, oui, ce sera 1000 ans, mais on verra, ce sera plus tard, et ce sera quelque chose de plus spirituel. Donc il y a deux lectures, effectivement, donc, qui peuvent mener à donner deux types de lectures ensuite différentes et de narrations différentes.
Alors, Christine Dumas-Rungoat, est-ce que vous voulez un petit peu présenter la question des oracles sibyllins dont on avait parlé ? Parce que
finalement
c'est un exemple assez frappant et finalement peu connu justement de cet imaginaire apocalyptique au-delà de simplement ce qu'on connaît éventuellement de l'apocalypse biblique.
Oui. Alors donc les oracles sibyllins se sont, font partie donc dans la littérature judéo-chrétienne, plus précisément pour les livres les plus anciens, donc les livres 3 à 5. En tout, il y en a 12. Les livres 3 à 5 ont été écrits par des juifs à Alexandrie entre le 2e siècle avant notre ère et puis le 1er siècle après notre ère. Et dans ces oracles, il se passe quelque chose de particulier, c'est que les auteurs sont cachés derrière la personnalité des sibylles. Donc les sibylles sont des prophétesses qu'on connaît depuis le 8e siècle avant notre ère et il y en a eu plusieurs. Ce sont des personnages qui sont, auxquels on prête tellement de crédit que, par exemple, Michel-Ange les a représentés sur le plafond de la chapelle Sixtine, au même titre que les prophètes bibliques. D'accord ? Donc on leur donnait le même crédit qu'aux prophètes bibliques. Seulement, évidemment, les juifs qui écrivent donc sous ce nom-là, au IIe siècle avant notre ère, ce qu'ils ont comme ambition, c'est d'une part de fortifier la foi de leurs coreligionnaires qui pourraient quand même faiblir devant les persécutions qui sont régulières, et, ou bien aussi le destinataire de ces œuvres-là, ce sont aussi les païens, des païens qui sont en recherche de vérité, qui ne savent pas bien quel repère trouver, et c'est l'occasion donc dans ces oracles d'essayer donc de les gagner à la fois donc des juifs. Et donc pour mener à bien cette entreprise, ces auteurs vont multiplier ils vont accumuler dans leurs récits, mais sous forme d'une sorte de fleuve incontrôlé d'images, des successions de tableaux cataclysmiques. Donc on va tout avoir. D'accord ? Donc on va avoir des prédictions de séismes, des prédictions d'éclipses de lune, de soleil. On va avoir du sang qui va sortir, qui va dégoûter des rochers. On va avoir un fleuve de feu inextinguible, comme chez les stoïciens, qui va brûler le monde entier. La mer même, la mer va prendre feu. Et on va avoir des images vraiment très, très, très impressionnantes qui vont aller dans le livre 5 jusqu'à des choses franchement écœurantes comme les festins anthropophages entre familles, des choses qui vont donc salir à tout jamais de sang les fleuves. Et puis ça va se terminer dans des combats stellaires. D'accord ? On peut trouver aussi ce genre de choses. Donc, je vous lis deux petits extraits de texte pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la plupart de ces ouvrages, le but, c'est quand même de persuader par la peur, c'est-à-dire de dire tous ces cataclysmes vont se produire au moment du jugement dernier, au moment où on va être tous jugés, d'accord ? Sans dire la date précise, mais voilà. Et donc, je vous en donne un exemple. À propos donc l'image peut-être la plus terrible, c'est celle donc des repas anthropophages. Et alors, rongeant leur cœur, les mortels dévoreront leurs parents, épuisés par la famine. Ils les avaleront goulûment comme aliment. Et sortis de leur tanière, les bêtes sauvages dévoreront le festin. Elles-mêmes et les oiseaux mangeront tous les mortels. Et l'océan sera rempli de choses répugnantes, déversées par le fleuve ensanglanté par les chairs et le sang des hommes insensé. Donc ça, c'est une forme de mort, mais c'est peut-être la plus cruelle que j'ai trouvée dans le champ 5 de ces oracles. Mais on a des choses qu'on peut trouver aussi, qui sont intéressantes parce que du point de vue de la temporalité. Notamment dans le champ 3, mais aussi le champ 4, les auteurs qui se cachent donc sous l'autorité des sibylles mélangent les temporalités. Et donc, ils vont se placer dans un point du passé. Par exemple, la sibylle va se présenter comme la bru de Noé. Et donc, ça veut dire qu'elle connaît les générations, vous voyez, antédiluviennes. Donc, se plaçant dans ce temps extrêmement lointain, elle se met à prophétiser des choses qui se sont produites depuis. Oui, on est au IIe siècle, en fait, avant Jésus-Christ. Donc, par exemple, elle va prophétiser l'éruption du Vésuve de 79. Bien. Et sur le même plan, juste après, elle va annoncer le retour de Néron. Oui, il faut savoir qu'il y avait une rumeur qui disait, vers 80, que Néron n'était pas mort, qu'il s'était éclipsé discrètement de Rome, qu'il était arrivé dans le royaume des Parthes, et qu'un jour, il allait revenir créer la terreur à Rome. Hein. Donc, sur le même plan, on a une première prophétie qui nous annonce quelque chose, qui est en fait un événement historique, datable et daté, qui s'est déjà déroulé, mais ce n'est pas grave, il est présenté dans le futur. Juste après, on nous présente une rumeur, quelque chose qui n'a pas de fondement, d'accord, parce que Néron, quand il est mort, voilà, il n'est pas revenu, il n'a pas ressuscité à ce moment-là, en 80. Et juste après, une vingtaine de vers après, alors là, on nous présente des cataclysmes épouvantables. Donc, je vous donne le texte pour que vous voyez ce que ça donne. Donc, on est au chant 3, ce sont des vers normalement, mais bon, là, la traduction est en prose. Et quand, déviant des entrailles déchirées de la terre d'Italie, le feu atteindra jusqu'au large ciel, consumant beaucoup de villes, faisant périr les hommes et remplissant d'une cendre obscure l'immensité des airs. Donc là, nous sommes dans l'éruption du Vésuve de 79. Quand des gouttes semblables à du vermillon tomberont du ciel, on reconnaîtra que s'abat sur eux le courroux du Dieu céleste, parce qu'ils auront fait périr la race innocente des hommes pieux. D'accord ? Donc tous ces cataclysmes, c'est pour punir les fautes des hommes. Alors sur l'Occident éclatera une lutte guerrière avec la venue du fugitif de Rome, c'est Néron, qui brandira une grande lance après avoir franchi l'Euphrate accompagné de myriades nombreuses. Du fait historique, vous voyez, on est passé à la rumeur. Et juste après, on va aller donc un peu plus loin. On va avoir une série de prodromes, de signes avant-coureurs, donc de la fin. Le feu fera sa proie du monde entier, annoncé par de très grands présages. Au lever du soleil, on verra des glaives, on entendra des trompettes. Le monde entier entendra un grondement et un son formidable. Le feu brûlera toute la terre. Il détruira toute la race des hommes, toutes les villes, les fleuves et la mer. Il consumera tout et réduira l'univers à une cendre noirâtre. Mais lorsque tout ne sera plus que cendre poudreuse, Dieu assoupira le formidable feu de la façon qu'il l'avait allumé. Et il rétablira les mortels pour le jugement dernier. Et alors, la terre se répandra sur les impies et les fera disparaître de nouveau dans l'humide Tartare. Donc, vous voyez, la Sibylle, elle a cette particularité qu'elle est, même hors du temps, elle est même transhistorique. Elle se trouve en dehors du temps, ce qui lui permet de présenter donc, des événements du passé, des événements du futur, dans une continuité qui n'a rien de chronologique. Elle mélange régulièrement des événements passés, des événements futurs, parce qu'il s'agit de dire que quand le moment de l'action de Dieu va vraiment se produire, eh bien, ça va complètement bousculer la chronologie. C'est le temps de Dieu qui va être le plus important et pas le temps des hommes. Et donc, du point de vue de cette persuasion de la peur dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, il y a des moyens, comment dire, des procédés littéraires qui se retrouvent, mais vraiment à chaque page de ces oracles, qui sont la multiplication des négations pour dire tout ce que ne sera plus le monde. C'est encore la multiplication de tous les termes totalisants. Vous voyez, tout va mourir, toute la terre va être détruite, toute la race des hommes va être détruite, etc. Ce genre de, comment dire, de à la fois de prophétie, donc à partir de l'événement, hein, de prophéties d'événements passés, mais qu'on met au temps futur. Et puis cette multiplication des horreurs, cette logorée hein, qui se produit dans tous ces champs, c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier dans la littérature judéo-chrétienne apocalyptique. Et elle va avoir une très grande influence, parce que si elle-même est influencée par les prophètes, en fait, elle va multiplier tous les procédés qui étaient là avant, et elle va influencer donc l'Apocalypse de Jean, mais aussi tout ce qui va suivre comme peinture vraiment effroyable de la fin du monde.
Peut-être il faut aussi simplement ajouter très très vite que les narrations eschatologiques sont comme de la littérature motivationnelle. Ils n'ont pas besoin d'être vrais pour être efficaces.
Alors, une chose qui me semble assez frappante dans les représentations qui ont excusez-moi. Une chose qui me semble assez frappante, c'est effectivement le fait que dans ces représentations et dans ces textes, ce qu'on retrouve, alors selon une modalité en termes de modalité épistémique très différente, puisque là, il s'agit véritablement de tenir un discours de vérité, ou du moins de prétendument de vérité, qui est reçu selon le registre effectivement de la vérité ou du mensonge, ou bon bref, de la mise en garde, on retrouve un certain nombre de figures qui sont réactivée dans les représentations contemporaines. C'est-à-dire que ce qu'on retrouve, c'est les angoisses universelles, finalement, qui sont mobilisées face à l'idée de fin du monde. C'est-à-dire que ça fait partie des choses amusantes qui sont faites par le petit diaporama que j'ai mis en arrière-plan. C'est que pendant que nous entendions ces indications sur les repas de cannibales, un panneau concernant les zombies intervenait à l'écran. Alors évidemment, nous ne sommes pas du tout dans le même genre de choses. C'est-à-dire que les zombies ne viennent pas, à proprement parler, des discours apocalyptiques directement, pas plus qu'ils n'en sont une annonce à proprement parler, mais ça réactive des inquiétudes qui sont des inquiétudes persistantes. Et il y a du coup une forme de... me semble-t-il, de permanence d'un imaginaire apocalyptique qui donne une pertinence particulière à l'examen de ces textes-là qui, en fait, sans que ce soit forcément direct, traverse les siècles jusqu'à un imaginaire qui est un imaginaire de science-fiction ou, d'une manière générale, catastrophiste.
Peut-être je peux un peu vous contredire en disant qu'en effet, les zombies sont une autre sécularisation de la résurrection chrétienne, parce qu'en effet, il s'agit de la résurrection de corps sans la résurrection de l'âme. Et aussi, si on veut développer un peu plus cette question-là, il faut peut-être dire que chaque génération a le devoir de faire face à son propre fardeau eschatologique. C'est-à-dire que même si la génération d'auparavant a eu des apocalypses et a eu des apocalypses sous des images tout à fait différentes, chaque génération doit trouver les modalités et les instruments de faire face à l'apocalypse qui est la sienne. Mais ça veut pas dire que si la génération d'auparavant a était contemporaine avec l'Apocalypse, notre génération n'est pas contemporaine. La contemporanéité avec l'Apocalypse, c'est quelque chose qui se passe à chaque génération, et c'est important de souligner que c'est le devoir de chaque génération de trouver les modalités de dépasser ce moment, de dépasser cette anxiété eschatologique. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le fait qu'on est ici, c'est grâce au fait que les générations passées ont su trouver les instruments et les modalités de dépasser leur propre apocalypse. Et donc, c'est notre devoir de dépasser les apocalypses qui sont les nôtres.
Oui, j'ajouterais qu'en fait, depuis nos apocalypses judéo-chrétiennes, en fait, à chaque fois, il y a une double réaction. Pourquoi elles naissent, ces apocalypses ? Elles naissent de l'insatisfaction du présent. Le présent est insatisfaisant, ou bien parce qu'il y a des persécutions à l'égard de ceux qui inventent ces apocalypses, etc. Et donc, en fait, c'est cette peur dont je parlais tout à l'heure. Donc, cette peur, elle est vraiment très ancrée. On la trouve systématiquement, mais systématiquement, on la trouve liée à l'espérance. L'espérance de un monde meilleur, l'espérance de trouver une solution pour sortir de ce passé qu'on veut nier, qu'on veut critiquer, dont on veut sortir. Donc, à chaque fois, effectivement, comme le dit ma collègue, il y a à chaque période charnière, on a cette ambivalence de sentiments qui font qu'à la fois on est effrayé de ce qu'on voit, de ce qu'on doit attendre encore plus si on ne réagit pas, si on n'a pas cette espérance. Alors aujourd'hui, comment ça peut se manifester avec nos périls écologiques, notre multiplication de cataclysmes qu'on nous annonce tous les jours Voilà, est-ce que on a l'imaginaire suffisamment puissant, comme dans les périodes charnières précédentes, pour avoir suffisamment de solidarité entre nous pour les surmonter ? Ça, je ne sais pas. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais on est toujours dans cette ambivalence, donc peur, espérance. Ça, c'est certain.
Alors, je pense qu'on pourrait se tourner vers le public pour voir s'il y a des réactions, des questions. Il y a une question ici, déjà. Est-ce que c'est bon ? Il y a un micro qui vient, voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour cette conversation très pointue. J'avais une question. Est-ce que vous avez, d'après des sources historiographiques diverses, des confirmations que ces divers récits eschatologiques étaient vraiment crus par la majorité des diverses populations ? Parce qu'il y a toujours, même maintenant, il y a peut-être des gens qui croient à ces récits, mais... Est-ce que c'était des croyances partagées par la vaste majorité de la population que ce soit à Rome, à Athènes, à Ninive ou ailleurs, enfin, dans différents lieux et différentes époques, où c'était déjà vu comme des mythes, des paraboles.
Bon, c'est très difficile de faire ce genre d'études post-factum, mais ce qui est plus intéressant, c'est autre chose. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas important si les gens croyaient vraiment, parce que les narrations étaient efficaces, même si les gens ne croyaient pas. Mais peut-être ce qui est plus intéressant de dire, c'est que dans l'évangile, à partir de lettres de Paul, il y a une catégorie de comme si, vivre comme si la fin de temps était là. Je ne sais pas si les gens croyaient, mais ils vivaient comme si cette fin était proche, comme il était dans l'attente.
Oui, tout à fait. Pour aller dans le sens de cette réponse-là, par exemple, au moment du début du christianisme, quand on a eu ces révélations de l'Apocalypse, ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu des comportements tout à fait particuliers. Par exemple, certains sont allés vivre sur le haut d'une colonne, les stylites, d'autres dans des arbres, les nindrites, pour être au plus près de Dieu et le plus pur possible. On a aussi inventé les mariages apotactiques, les mariages où on ne se touche pas. Comme ça, on reste pur au cas où la fin est demain. Donc, je ne sais pas vous dire non plus que ma collègue, si on croyait, vous voyez, mais en tout cas, ça avait une influence sur le comportement. Alors, tout le monde ne s'est pas mis à s'unir apotactiquement, mais je veux dire, puisque on est là, hein, donc, mais il y a quand même eu une influence sur l'action. Sur le comportement, oui, ça c'est vrai.
Il y a certains sectes, comme par exemple les Esséniens, qui décidaient de ne pas se marier, ne pas faire des enfants. Et à la limite, si on suit leur logique, si tout le monde peut décider qu'ils ne vont pas faire des enfants, la fin adviendra sans doute.
Oui, alors, y a-t-il une autre question ? Il y en a une là-bas, oui.
Bonsoir. Je pensais à changement de. Vous parliez des changements de comportement. Et du coup, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, on avait parlé d'une catastrophe qui devait arriver en 2012. Donc voilà, je voulais savoir quel était votre point de vue sur cette prophétie.
Ah ben, c'était prévisible. C'est-à-dire qu'enfin, je veux dire, il y a plein de dates comme ça. Hein. C'était prévisible qu'il y en ait, que certaines personnes allaient dire ben, moi, je m'en vais m'enterrer dans mon abri. Anti-atomique, moi je vais, je ne sais pas, sur le sommet de quelle montagne, oui, voilà, enfin bref. Donc après, voilà, c'est ça. Il y a des comportements qui ne sont pas du tout dans la solidarité, mais qui sont tout à fait individuels. Chacun comprend cette menace comme il l'entend. Enfin, je veux dire, moi ça me laisse de glace, mais je veux dire, il y a des gens que ça terrorise. Voilà, les comportements sont complètement irrationnels. Enfin, je veux dire, ça n'avait pas de sens d'aller s'enterrer je ne sais où. Enfin, je veux dire, enfin, ça dépend pour qui. Enfin, celui qui y croit réagit comme il l'entend. Mais c'était prévisible qu'il y aurait des comportements assez irrationnels, ça c'est sûr.
Oui, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais en thèse à l'école pratique de hautes études. On a organisé un colloque exactement sur 2012. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et quelqu'un là-bas essayait d'expliquer qu'en effet, selon les prophéties mayas, il ne s'agit pas de la fin du monde, il s'agit de la fin d'un cycle dans le monde. Mais en effet, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que chaque génération reprend cette image de la fin. Et cette image de la fin, elle travaille les consciences, même s'il ne s'accomplit pas. Elle a un pouvoir de mettre en cause le présent à partir de la promesse d'un avenir qui soit ou menaçant ou meilleur.
Alors, de ce point de vue-là, pour prolonger une chose que vous disiez tout à l'heure, il me semble que ce qui est frappant là, dans la différence qu'on peut établir entre une prophétie de type 2012 égale la fin du monde, bon, et un questionnement qui est celui lié par exemple au réchauffement climatique, et il me semble que par rapport à ce que vous disiez sur l'idée que la fin informe le comportement présent, il me semble que justement le seul comportement vis-à-vis de la fin du monde en 2012, c'est effectivement aller s'enfermer dans un coin et puis attendre que ça passe, quoi. Alors que la logique véritablement de l'apocalypse au sens que vous avez développé, c'est vraiment une logique rétroactive et qui implique effectivement un examen de soi, un examen de ses comportements. et potentiellement une modélisation de l'action en fonction de cette fin. Et donc, il me semble qu'il y a, du coup une difficulté dans le déferlement d'images et de représentations apocalyptiques de toutes sortes, qui est que finalement, il y a aussi une façon d'utiliser l'image d'une façon qui échappe complètement à la question de la modélisation des comportements. L'idée que c'est une fatalité qui, de toute façon, va écraser toute chose. Donc là, on sort un peu, justement, enfin, on retrouve les images, mais le sens moral disparaît.
C'est, par exemple, Heidegger qui, dans les leçons sur la philosophie de la religion, explique que la question du quand est-ce que la fin adviendra, doit être comprise en effet comme une question de comment vivre le présent, comment vivre le moment présent à partir de la fin.
Une autre question ? Il y en a là-bas, oui, monsieur ? Non, ça ne marche pas. Approchez-vous et je vais répéter votre question. Vous venez parler dans le micro ici.
Ça va marcher. Bon, alors je voudrais d'abord vous remercier beaucoup pour la présentation qui était extrêmement intéressante. Et ma question, alors je crois savoir que l'apocalypse en grec, ça signifie la révélation. Et en fait, j'ai une question que je me pose à peu près depuis 2012. Il y a peut-être une raison, justement. Et qui est, comment est-ce que quelque chose qui, en grec, signifie la révélation, en est arrivé aujourd'hui à signifier le cataclysme, le désastre, etc.
En fait, le mot apocalypsis, donc ça veut dire dévoilement. Vous voyez, on enlève calypto, ça veut dire caché. Donc, apocalypse, voilà, c'est révélation dans ce sens-là. Il n'y a pas du tout de sens catastrophique, vous voyez, de sens négatif, de valeur négative, dans l'étymologie du mot, ça c'est certain. Mais il se trouve que, comme le jour où Dieu intervient, c'est à la fois un jour d'obscurité, de ténèbres, de cendres accumulées, de noir, d'accord, avec tous les malheurs qui vont s'accumuler, et en même temps, c'est le jour de la lumière, c'est le jour de la solution à tous les maux, de la fin des injustices, la richesse pour les pauvres, etc. De ce fait-là, il y a deux versants à ce qui s'appelait avant le jour de Yahvé dans la Bible et qui devient donc l'imminence du jour chez les chrétiens. Mais c'est ce même jour-là et il a deux versants. Et je suis d'accord avec vous, de ce qu'on a gardé de l'image ambivalente, c'est l'image négative, mais elle n'est pas du tout contenue, vous avez raison, dans le sens du mot, du point de vue de l'étymologie grecque. Oui.
Il faut peut-être ajouter qu'avant la fin proprement dit et l'instauration d'un royaume qui va venir de Dieu, il y a la bataille finale entre le bien et le mal. Cette bataille finale entre le bien et le mal est plutôt mieux surprise dans la littérature fantasy. Par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou beaucoup d'autres éléments. Ou même C.S. Lewis, il a un tout à fait une série sur la planète...
La planète silencieuse, enfin oui. Voilà, sa trilogie, Père et Landra et tout ça, oui.
C'est-à-dire que des éléments du christianisme, de la lutte finale entre le bien et le mal, réapparaissent dans la littérature fantasy où, avant que le conflit soit résolu, il y a quand même une grande conflagration. Et cette grande conflagration, chacun doit choisir s'il sera du côté du bien ou s'il sera du côté du mal. C'est un choix personnel que chacun doit faire.
Et donc, il y a un potentiel dramatique plus fort.
Et aussi, pour répondre à votre question, il se trouve que l'apocalypse de Jean, qui est restée comme vraiment l'apocalypse la plus importante, elle présente donc beaucoup d'images extrêmement effrayantes avec des monstres et toutes sortes de cataclysmes accumulés qui font qu'on oublie qu'il ne parle pas que de ça. Il parle aussi de l'ère de justice, etc., qui va advenir.
Bien. Merci beaucoup à nos intervenantes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Et bonne suite de festival.